Et merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
Quand ils sont agités le matin, ça m'arrive de leur allumer un petit peu la télé. C'est dur de ne pas le faire, mais il faut faire vraiment attention.
On vous le dit, on vous le répète, les écrans pour les enfants, c'est dangereux. Une étude de Santé publique France précise aujourd'hui qu'ils peuvent engendrer des troubles du langage.
Et les parents réagissent différemment, vous l'avez entendu, même s'ils ont pleinement conscience de la dangerosité du phénomène. Explication dans un instant. La natalité ne baisse plus, mais il y a toujours plus de familles éclatées. Ce sont les deux grands enseignements du recensement de l'INSEE dévoilé ce matin.
La France reste le pays le plus fécond d'Europe. Ce taux de fécondité pourrait s'expliquer par la politique sociale assez généreuse en France.
Inquiétude chez Auchan, 517 emplois nets supprimés dans le cadre d'un projet de réorganisation. Nous irons à Croix dans le Nord au siège de l'entreprise.
Christophe Ruggia en garde à vue, c'est le réalisateur Cadel Hennel accusé en novembre de l'avoir agressé sexuellement. Le point dans quelques instants.
Le pape François réagit aux accusations de son prédécesseur sur le thème du célibat des prêtres. Nous entendrons l'opinion de Bernard Lecomte, expert du Vatican.
La question demeure sur la table. L'Open d'Australie pourra-t-il se tenir comme prévu? Une joueuse slovène a abandonné au premier tour des qualifs, victime d'une quinte de toux.
Ils ont demandé à ce que les joueurs ne s'échauffent pas trop tôt. Ils ont repoussé les matchs d'une heure. Et les échauffements, ils les ont repoussés aussi parce que ce matin, c'était vraiment la qualité de l'air n'était vraiment pas bonne.
Et puis nous irons à Montmartre, déserté par les touristes. Plus de funiculaires, plus de métro, c'est redevenu un village. La météo, Céline Dacosta, vent et pluie aujourd'hui.
Oui, de bonnes rafales encore hein, cet après-midi sur toute la moitié nord, jusqu'à 70 km à l'heure dans les terres. Le tout accompagné d'averses encore soutenues sur le nord-ouest où le Morbihan et le Finistère sont toujours en vigilance orange, vagues, submersion et pluie et inondations.
Merci Céline, on vous retrouve à midi et demi. Météo complète sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc une nouvelle étude publiée par Santé publique France qui le redit, Pierre. Les écrans, eh oui, c'est dangereux pour les enfants.
Ouais, c'est l'université de Rennes qui a mené l'étude auprès de 276 enfants âgés de 3 ans et demi à 6 ans et demi. Le grand danger, Ève Roger, eh ben c'est le petit dessin animé avant d'aller à l'école.
Et oui, et on va commencer avec une maman de deux petits de 4 et 6 ans. Elle l'avoue au micro de Victor Dolande. Oui, ça lui arrive le matin de les mettre devant la télé.
Quand ils sont agités le matin, ça m'arrive de leur allumer un petit peu la télé. C'est dur de ne pas le faire, mais il faut faire vraiment attention. Ne pas les laisser longtemps parce que ça les empêche de penser à autre chose. On a bien remarqué ça.
Et oui, Pierre, que le parent qui n'a jamais laissé son enfant devant télé, tablette ou ordi le matin, le temps de se préparer ou de grappiller quelques minutes de sommeil, lève le doigt. Bon. Et pourtant, cette étude est catégorique. Les enfants qui regardent la télé au petit déjeuner ont 3 fois plus de risques de développer des troubles du langage et même 6 fois plus s'ils n'échangent pas avec leurs parents autour du contenu de ces programmes. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le moment qui pose problème, le début de la journée, plus encore que le temps passé devant les écrans. Les explications de Manon Collet, médecin généraliste et auteur de l'étude.
Un écran dès le matin va aller épuiser l'attention de l'enfant, qui se retrouve alors moins apte aux acquisitions et aux apprentissages pour le reste de sa journée.
Alors pour nous aider à réguler la relation entre nos enfants et leurs écrans, une spécialiste invitée ce matin sur l'antenne d'Europe 1 nous a rappelé la règle des 4 pas. Pas d'écran le matin avant l'école, pas au moment des repas, pas dans la chambre et pas avant de se coucher. Bonne chance.
Merci Ève Roger.
Et en ce début d'année, c'est vrai que c'est un peu une tradition, Pierre. L'INSEE publie son recensement.
Oui, et au dernier recensement, celui du 1er janvier 2020, nous sommes 67 millions 64 000 Français. Hélène Terzian, vous êtes au siège de l'Institut de la Statistique et ce matin, 2 enseignements majeurs. On commence par le premier, le fait que la natalité ne baisse plus.
Exactement. Le taux de fécondité se stabilise en France après 4 années de baisse. Il se situe à 1,87 enfants par femme, comme l'explique Sylvie Luminez, responsable de l'unité des études démographiques et sociales à l'INSEE.
On peut penser que c'est lié aux effets de la crise qui peut-être s'estompe et donc la fécondité en tout cas se stabilise. La France reste le pays le plus fécond d'Europe. Ce taux de fécondité pourrait s'expliquer par la politique familiale et la politique sociale assez généreuse en France qui facilite notamment la conciliation vie familiale et vie professionnelle.
Alors, autre enseignement hein, que l'on apprend à l'instant, eh bien, le modèle familial se métamorphose en 2018. La famille dite traditionnelle, c'est-à-dire un couple qui vit avec ses enfants issus de son union, reste majoritaire, mais il y en a moins. On passe de 69 à 67% entre 2011 et 2018, alors que dans le même temps, eh bien, le nombre de familles monoparentales augmente. Là, le taux passe de 22 à 24%.
Merci Hélène Terzian, en direct au siège de l'INSEE pour Europe 1.
Il est midi 4, la suite de votre journal, Pierre Devineau, Raphaël Duchemin.
C'est un coup de massue, Pierre, pour l'emploi, 517 postes supprimés chez Auchan.
Oui, chez Auchan Retail, précisément dans le cadre d'un plan de réorganisation. Lionel Gougelon, vous êtes au siège d'Auchan à Croix dans le Nord et ce plan ne concerne que les employés du siège justement.
Oui, effectivement, ce que l'on appelle les fonctions support, hein, c'est-à-dire les emplois administratifs en ressources humaines, comptabilité, services des achats, 517 suppressions de postes, donc uniquement sur les deux sièges du groupe ici dans la région lilloise. Il s'agira d'un plan de départ volontaire et cela dans le cadre d'une stratégie de relance de l'enseigne et d'une réorganisation de l'offre commerciale dans les magasins qui proposeront par exemple de nouveaux produits alimentaires, bio ou locaux ou qui mettront des surfaces de vente à disposition de producteurs de proximité. Bref, un vrai changement de modèle nécessaire selon Jean-Denis Devenne, directeur général du groupe Auchan.
Quand vous transformez la vocation de nos magasins, vous en transformez nos méthodes de travail et donc forcément vous devez adapter les métiers qui se trouvent en amont de nos magasins et en particulier les adapter aux évolutions des nouvelles technologies. En fait, nous adaptons notre modèle historique au nouveau contexte commercial du 21e siècle. C'est un mouvement de transformation et le changement aujourd'hui, il est permanent dans les entreprises de notre type.
Alors ici, on est convaincu que le modèle de l'hypermarché hein, reste viable malgré l'érosion des ventes assez spectaculaire et les pertes de plus d'1 milliard d'euros l'an dernier. Le plan présenté ce matin aux organisations syndicales doit permettre de multiplier par 2 la rentabilité de l'enseigne.
Merci Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1, en direct de Croix, dans le Nord. L'emploi, justement, la réforme des retraites voulue par le gouvernement tient à maintenir dans l'emploi les personnes plus longtemps, plutôt que de les mettre au chômage. À cet effet, Matignon a commandé un rapport à 3 personnes, dont Sophie Bellon, la présidente de Sodexo.
Et Olivier Samin, ce rapport met en exergue le fait que seulement 30% des 59-62 ans sont en activité.
Oui, ce qui place la France nettement en dessous de la moyenne européenne. Alors, le rapport remis ce matin à Édouard Philippe propose 40 mesures pour changer les pratiques dans les entreprises. Sophie Bellon, qui a piloté la mission, l'affirme, c'est très tôt dans la vie professionnelle qu'il faut s'attaquer au problème et pas dans les dernières années de la carrière.
Il faut anticiper d'une part sur la santé au travail pour éviter l'usure professionnelle. Il faut anticiper sur la formation parce qu'il y a des chiffres qui montrent qu'à partir de 50 ans et même 45, les gens ne sont plus formés. Donc en fait, il faut anticiper et mettre de la souplesse pour éviter la fin de carrière brutale de on travaille et on est à 150% et puis du jour au lendemain, on s'arrête parce que ça n'est bon pour personne. Ça n'est pas bon pour l'entreprise, ça n'est pas bon pour la transition dans l'entreprise et ça n'est pas bon pour le travailleur.
Le changement de pratique des entreprises passera, dit le rapport, par le renforcement de la mission de la médecine du travail qui est devenue le parent pauvre aujourd'hui, mais aussi par des actions pour favoriser la mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou encore, quand le salarié s'approche de l'âge de la retraite, par l'assouplissement des règles permettant la retraite progressive. Aujourd'hui, quelques milliers seulement de salariés partent en retraite progressive. Reste la question du coût salarial, souvent présenté par les entreprises comme un frein à l'emploi des seniors. Le rapport veut encourager les branches professionnelles à revoir les règles pour permettre à un salarié volontaire, on pense surtout au cadre, de voir sa rémunération baisser corrélativement à un allègement de ses responsabilités, et cela en contrepartie du versement à ce moment-là de son indemnité licenciement.
Merci Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
La grève, Pierre, oui, elle est toujours là. Les syndicats n'en débordent pas. Certains veulent toujours le retrait pur et simple de la réforme. De son côté, Laurent Escure de l'UNSA accuse la CGT-FO, mais aussi Jean-Luc Mélenchon de manipuler les grévistes.
Oui, et pendant ce temps, à Marseille, on assiste à une opération port-mort. Cela concerne donc les dockers, les ferries, etc. Et tout cela a des conséquences immédiates sur le commerce dans toute la région, Nathalie Chevance.
Oui, car encore une fois, les agents portuaires, les dockers et les salariés de la réparation navale bloquent les accès du grand port maritime. Cela veut dire qu'il n'y a aucun trafic, aucun chargement, pas de remorquage et cela va durer 72 heures. C'est la 8e opération de ce type depuis le 5 décembre et le mouvement ne présente aucun signe d'essoufflement, d'où l'inquiétude de Philippe Corsia, le président de l'UPE 13, l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône.
On se retrouve avec une situation catastrophique. On a mis des années pour construire et en un mois, on est en train de tout détruire. On me parle de centaines et centaines de conteneurs bloqués. On a à peu près 250 000 euros de pertes journalières en termes de marchandises, en termes de chiffre d'affaires, de non-approvisionnement, parce que c'est des matières souvent périssables. Donc il faut tout jeter. Le danger, c'est que maintenant, les entreprises demandent de ne plus décharger sur Marseille, d'aller ailleurs. On ne peut plus continuer comme ça. On ne se rend pas bien compte de la situation économique du port. C'est pour ça que c'est un cri d'alarme qu'en tant que président de l'UPE 13, je lance à l'ensemble des organisations syndicales.
Et la grève ne touche pas que le fret. Le secteur de la croisière est lourdement impacté. 10 escales annulées, 30 000 passagers concernés, sachant qu'ils dépensent en moyenne 80 euros par jour quand ils débarquent. Plus de 2,5 millions d'euros de pertes depuis le 5 décembre.
Merci Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille.
Il est midi 10.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Un ancien pilote condamné à 5 ans de prison. Il était devenu boulimique de pédophilie. A tout de suite.
Il est midi 13. La suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
La condamnation hier d'un homme de 50 ans, Pierre, cet ancien pilote de l'armée, commandait des vidéos d'agressions sexuelles en ligne.
Interpellé en 2014 en France, on a retrouvé près de 15 000 photos, 467 vidéos pédopornographiques sur son ordinateur. La police française est remontée jusqu'à lui grâce au FBI, alors que cet homme résidait à Singapour. Hier, la 15e chambre correctionnelle du tribunal de Paris a condamné cet homme à 5 ans de prison pour sa défense. Le prévenu a affirmé que c'était devenu de la boulimie. Compte rendu d'audience, Marion Dubreuil.
Les victimes ne sont pas dans la salle d'audience, elles se trouvent à l'autre bout du monde, aux Philippines. Le prévenu, un pilote de ligne de 50 ans en costume bleu impeccable, ne les a a priori jamais rencontrés. Ce père de famille, divorcé, a commandé sur Internet, depuis son ordinateur, des vidéos pédopornographiques. Pendant 4 ans, il a effectué 57 virements de 30 euros en moyenne aux Philippines pour obtenir ce qu'il appelle lui-même des shows exclusifs. Des enfants sont agressés sexuellement sur vos instructions pour votre plaisir, l'interroge la juge. Le pilote de ligne dément. Il y a une différence entre la commande et la réalisation. La juge lit ses échanges avec les adultes qui exploitent ces petites filles. Les instructions du quinquagénaire sont crues, explicites, glaçantes. Ces vidéos ont été diffusées en direct, elles n'ont jamais été enregistrées. Mais cette absence de preuves n'a pas empêché le tribunal de condamner le prévenu à 5 ans de prison ferme et 10 ans de suivi socio-judiciaire. Pendant l'audience, le prévenu n'a pas eu un mot pour ses petites victimes de l'autre côté de l'écran.
Marion Dubreuil, les suites de l'affaire Adèle Haenel. Souvenez-vous, l'actrice avait dénoncé cet automne les agissements du réalisateur Christophe Ruggia, avec lequel elle a tourné son premier film quand elle avait 13 ans. Guillaume Yé, Christophe Ruggia, ce matin, est en garde à vue.
Oui, les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire sont venus l'interpeller ce matin. Les policiers de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, ce sont eux qui sont chargés de cette enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris. Le 26 novembre dernier, ces enquêteurs spécialisés avaient très très longuement recueilli le témoignage et la plainte d'Adèle Haenel. L'actrice avait été entendue durant 13 heures par les policiers jusqu'à 4 heures du matin. Elle avait raconté en détail l'emprise dont elle accuse Christophe Ruggia ainsi que les attouchements et le harcèlement sexuel qu'elle aurait subi de sa part à l'époque où elle était mineure entre l'âge de 12 et 15 ans. En réponse, le réalisateur s'était défendu publiquement dans un droit de réponse adressé au site Mediapart et il avait notamment demandé pardon. Depuis ce matin, c'est face aux policiers qu'il doit s'expliquer, répondre aux accusations portées par Adèle Haenel. À l'issue de sa garde à vue, il pourrait être soit remis en liberté, soit présenté à la justice pour une éventuelle mise en examen.
Merci Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1.
Les midi 15, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Avec la réaction du pape François ce matin, Pierre, aux critiques de son prédécesseur Benoît XVI sur le thème du célibat des prêtres.
Alors je vous refais le film. Lors de son voyage au Panama, le pape François citait une phrase de saint Paul. « Je préfère donner ma vie que changer la loi sur le célibat. » Mais, dans des cas exceptionnels, l'actuel Saint-Père avait déclaré une option possible, et ça a été le cas dernièrement pour des prêtres en Amazonie. Levée de bouclier de Benoît XVI, 92 ans, mais qui habite toujours le Vatican, sur le thème « Il ne faut surtout pas toucher au célibat des prêtres ».
Bernard Lecomte, expert du Vatican, nous en disait plus d'ailleurs ce matin dans la matinale de Mathieu Béliard.
Si on avait dit au moment de la démission de Benoît XVI en 2013, l'ancien pape devient évêque émérite, évêque de Rome émérite, cardinal émérite, que sais-je. Mais il a tenu à ce qu'il devienne un pape émérite. Et pape, ça n'est pas n'importe quoi. Le pape, il est au-dessus de tous les autres.
Bon, est-ce qu'aujourd'hui, vous dites qu'on a un petit problème au moins d'organisation dans le fait d'avoir plusieurs papes qui peuvent parler en même temps ?
C'est un problème d'autorité. Quand Benoît XVI a démissionné, il avait dit qu'on ne l'entendrait plus, je le cite. Et du coup, personne ne s'était opposé à ce qu'il choisisse d'être appelé pape émérite, de garder son nom de pape, Benoît XVI, d'habiter dans l'enceinte du Vatican et même de porter son habit de pape, sa soutane et sa calotte blanche, etc. Ça pose aujourd'hui un problème évident parce que si ce pape en effet se met à parler et pas dans le sens de son successeur, il y a un vrai problème de pouvoir qui se pose au Vatican.
Eh oui, ça fait désordre. Ça s'appelle ordre et contre-ordre. Bernard Lecomte, expert du Vatican, invité ce matin de Mathieu Béliard.
L'Open d'Australie doit se tenir dès ce lundi à Melbourne, mais vu la situation, beaucoup de joueurs et beaucoup d'officiels s'interrogent, Pierre, d'autant que la mairie de Melbourne demande à ses habitants de ne pas sortir et de ne pas sortir non plus leurs animaux.
Oui, et on se souvient de cette déclaration de l'Australienne Ashley Barty la semaine dernière, qui appelait à repousser le tournoi. D'autres joueurs, notamment français, s'inquiètent, d'autant que Corinne Boulou, lors des qualifications qui ont lieu en ce moment, une joueuse slovène a dû tout simplement abandonner son match, victime d'une quinte de toux.
L'air à Melbourne qualifié de mauvais pour la santé était aujourd'hui 10 fois plus pollué qu'à Paris. Et le tournoi de qualification a été impacté puisqu'effectivement une joueuse slovène prise d'une forte quinte de toux à la limite de l'évanouissement a été contrainte à l'abandon. Malgré tout, les 63 autres matchs programmés sont allés à leur terme. Sur place, Loïc Courteau, responsable de la performance à la Fédération française, a vécu cette première journée. Il vient de nous livrer son ressenti.
Ça irrite un peu la gorge, c'est un peu, ouais, mais on peut jouer au tennis, quoi. Il y a pas de souci, quoi. C'est pas intenable du tout, quoi. On n'est pas là à porter des masques et à ne pas respirer, non. Ils ont demandé à ce que les joueurs ne s'échauffent pas trop tôt. Ils ont repoussé les matchs d'une heure, qui devaient commencer à 10h. Et les échauffements, ils les ont repoussés aussi parce que ce matin, c'était vraiment la qualité de l'air était vraiment pas bonne, quoi. Franchement, c'est inhabituel. On s'est réveillé. D'abord, ça a commencé hier soir. Il y avait une espèce de brouillard qui était dans la ville. Et ce matin, quand on s'est réveillé, toute la ville était dans une espèce de brouillard dû à la fumée qui vient avec les vents qui vient sur Melbourne, quoi.
Et dans la banlieue de Melbourne, l'ex-numéro 1 mondial russe Maria Sharapova, qui disputait elle un match exhibition, a préféré jeter l'éponge. Une sage décision, a-t-elle expliqué, après avoir ressenti les effets de la fumée ambiante. D'autres grandes voix du tennis commencent à s'élever et à s'interroger sur la pertinence de disputer dans quelques jours un grand chelem dans ces conditions. La direction de l'Open d'Australie n'y voit pour le moment pas de contre-indication. Pour le moment.
Pour le moment, on suivra ça avec attention. Merci Corinne Boulou. Et moi, je suis toutes les préconisations de Maria Sharapova. De toute façon, je suis tout à fait toujours d'accord avec elle.
Comme par hasard. Merci. Il est midi 19. Europe 1. Une nouvelle pause et dans un instant, quel rapport entre le bus à hydrogène de Pau et le funiculaire de Montmartre ? Vous avez 2 minutes pour réfléchir. Le temps de la pub, à tout de suite sur Europe 1.
Il est midi 22, la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Et on s'intéresse, Pierre, au bus à hydrogène, il décolle.
Oui, avec cette question, 2020 sera-t-elle l'année du développement de l'hydrogène en France ? Emmanuel Macron est à Pau ce matin pour inaugurer une ligne de bus à hydrogène qui circule dans la ville de François Bayrou depuis 15 jours maintenant. Nicolas Hulot, lui, on s'en souvient, avait lancé un plan hydrogène, c'était en juillet 2018.
Les initiatives se multiplient dans toutes les régions et les défenseurs de l'hydrogène espèrent que la France passera rapidement à l'échelle industrielle pour développer cette technologie, Aurélien Fleureau.
Oui, parce qu'il n'y a pas un territoire sans son projet hydrogène, donc les transports en commun, des bus désormais dans 3 départements, Pas-de-Calais, Yvelines et donc maintenant Pyrénées-Atlantiques, des TER, plusieurs régions ont déjà signé avec la SNCF, ce sera à partir de 2022, des usines de fabrication de piles à combustible en Nouvelle-Aquitaine et puis en Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui même, Dijon inaugure une unité de production d'hydrogène par électrolyse, donc pour que cette énergie soit 100% propre. 2020 doit donc être l'année de la concrétisation de nombreux projets pour Michel Delpont, député de Dordogne et président du groupe Hydrogène à l'Assemblée nationale.
C'est la première fois qu'on a une technologie de rupture qui va pouvoir créer de l'emploi en ruralité. Et c'est l'exemple Hydrogène de France à Bordeaux pour industrialiser les électrolyseurs à grande échelle. Et je crois savoir que c'est 100 d'emplois à la clé. Il faut industrialiser l'hydrogène pour pouvoir non seulement le produire en France, mais également exporter notre savoir-faire.
Il vient de remettre un rapport à Emmanuel Macron, donc pour le convaincre d'investir massivement pour que la France soit en pointe dans cette technologie et puis ne pas se retrouver comme avec les batteries électriques des voitures, trop dépendantes de l'Asie qui avance aussi très vite sur l'hydrogène.
Enquête d'Aurélien Fleureau, spécialiste des transports à Europe 1. Merci Aurélien.
Et côté transport, justement, Pierre, la lente amélioration se confirme. 8 TGV sur 10 aujourd'hui, 3 TER sur 4, la moitié des intercités et 7 Transiliens sur 10. Côté RATP, c'est comme ces derniers jours.
Oui, flou, inégal, bondé aux heures de pointe. Autre conséquence, l'emblématique quartier de Montmartre au nord de Paris est impacté. Les métros qui le desservent roulent très peu. Le funiculaire est à l'arrêt. Reportage à Montmartre, Hélène Terzian.
On voulait prendre le téléphérique, mais il est fermé. C'est à cause de la grève ?
Eh bien oui, Francesca, le funiculaire de Montmartre est fermé depuis le 5 décembre. Pas d'autre choix que de monter à pied.
3, 2, 1, parti ! On est fatigué, on fait que marcher. J'ai besoin d'une pause. Ah, on l'a fait.
222 marches plus tard, la vue est dégagée et en guise de récompense, il n'y a même pas la queue pour entrer dans la basilique. Une aubaine aussi pour les Parisiens.
On en profite un petit peu parce qu'il y a moins de monde. Qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas de touristes. Montmartre reste Montmartre.
Je trouve que les touristes sont... Ceux qui sont arrivés jusqu'ici, c'est que vous voulez vraiment venir, mais ils sont cool, quoi.
Et c'est vrai que sur la place du Tertre, les touristes ne jouent pas des coudes pour se faire tirer le portrait. Gilles, un des artistes de la butte, y trouve un certain charme.
Moi, je préfère la place quand elle est comme ça, avec personne. Si je veux faire une toile, je vais mettre mon cheval là. Bon, ça me plaît pour l'art, oui, mais pas pour le portefeuille. C'est la seule différence.
Les restaurateurs, eux, payent le prix fort. Même Henri, patron d'un bistrot sur la place.
C'est pas normal de voir Montmartre avec si peu de monde. L'impact, c'est 30% en moins. Ça fait du personnel en moins. On n'a pas le choix.
Un impact surtout ressenti le soir, confie le cafetier voisin en pointant sa terrasse déjà clairsemée à midi.
Et on va boire un petit picon bière à Montmartre, Raphaël.
Ah, avec plaisir, Pierre. D'autant qu'on a quelque chose à fêter.
On a des remerciements à faire.
Oui, oui. Vous faites vous les auditeurs d'Europe 1, puisque depuis la rentrée, vous êtes 428 000 de plus à nous écouter chaque jour. Merci,
merci
à vous et bravo
merci
à vous de nous avoir retrouvés. On est ravis de vous accompagner chaque jour sur Europe 1. Merci Pierre, on se retrouve tout à l'heure, 13h.
Il est midi 26.
Europe 1.
Vous restez avec nous, deux experts, deux projets, c'est la France Bouge Académie. Ça arrive sur Europe 1, bien sûr. À tout de suite.